Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour. Émission un peu particulière aujourd'hui puisque nous allons écouter un extrait d'une table ronde conduite par Alain Doudiès au nom de Divergence le 19 mars dernier, salle Rabelais, sur la question de l'eau et du territoire. Cette journée était consacrée aux relations permanentes entre les conseils, les lois à échelle globale, avec leur application plus ou moins facile dans les territoires par les élus et les citoyens. Les lois d'hier sont-elles en phase avec les questions d'aujourd'hui ? Eh bien, pour répondre un peu à cela et pour le rendre possible, le 3 mars 2023, Antonio Guterres, le secrétaire national de l'ONU, sortait l'eau d'une longue réserve et lui donnait le sens politique qu'elle va prendre dans les temps qui s'annoncent.
Nous ne pouvons pas faire face à cette urgence du 21e siècle avec des infrastructures d'un autre âge. Cela demande d'investir dans les canalisations, des infrastructures de distribution d'eau et des stations d'épuration qui soient résilientes face aux catastrophes. Cela nécessite de nouveaux moyens de recycler et de conserver l'eau. Cela implique des systèmes alimentaires intelligents qui protègent le climat et la biodiversité en réduisant les émissions de méthane et la consommation d'eau. Cela requiert d'investir dans un nouveau système d'information mondial qui permettent de prévoir en temps réel les besoins en eau. Cela signifie que chaque personne dans le monde bénéficie de dispositifs d'alerte rapide contre les phénomènes climatiques ou météorologiques dangereux. Et cela nécessite d'envisager de nouveaux partenariats publics-privés dans le cadre de nos activités. Et quatrièmement, il faut lutter contre le changement climatique. L'action climatique et un avenir durable de l'eau sont indissociables. Nous ne devons ménager aucun effort pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et répondre aux attentes des pays en développement en matière de justice climatique. J'ai proposé au G20 un pacte de solidarité climatique par lequel tous les grands émetteurs redoublent d'efforts pour réduire leurs émissions et les pays les plus riches mobilisent des ressources financières et techniques pour soutenir la transition des économies émergentes. En début de semaine, j'ai présenté un plan visant à intensifier les efforts pour parvenir à ce pacte de solidarité climatique grâce à un programme d'accélération et à la pleine mobilisation de tous vers la réduction des émissions. Nous n'avons pas une minute à perdre. Excellencies,
Excellences, chers amis, cette conférence est bien plus qu'une conférence sur l'eau. C'est une conférence sur le monde contemporain, vu sous l'angle de sa ressource la plus importante. Cette conférence doit marquer un progrès décisif, un changement radical pour amener les États membres et la communauté internationale non seulement à bien comprendre que l'eau est d'une importance vitale pour la viabilité de notre monde, mais aussi qu'elle est un outil de promotion de la paix et de la coopération internationale. Il faudra aussi prendre les mesures qui s'imposent à cet effet. De l'eau en tant qu'élément essentiel à l'économie et des politiques, à la reconnaissance de l'eau et de l'assainissement en tant que droit humain, de l'intégration des politiques relatives à l'eau et au climat, à une approche novatrice de l'utilisation de l'eau dans la production alimentaire, le moment est venu de prendre des engagements décisifs pour donner vie au programme d'action pour l'eau.
Cette ressource finie, désormais insuffisante face à l'augmentation de nos besoins, va devoir être partagée. Toutes les manières de traiter l'eau sont à revoir par les élus, aidés en cela par le cadre de la loi, véritable colonne vertébrale. Alain Doudiès avait la lourde tâche de conclure cette journée avec 3 interlocuteurs. 2 élus, Véronique Négret, maire de Villeneuve-les-Maguelones, et Robert Crost, maire du Gros-du-Roi et vice-président de l'ANEL, l'association des élus du littoral, rejoint par Christelle Gramaglia, sociologue et chercheuse à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Voici un extrait de leur réflexion sur la nouvelle gestion des inondations notamment. Le changement climatique devient une nouvelle donne pour nos territoires. Véronique Négret, avant Robert Crost, nous explique en quoi les élus doivent changer leur manière de voir.
Donc, sous l'aspect prévention des inondations, l'objectif partagé entre moi-même et les services, c'est bien d'arriver à passer d'une action de réparation à une action de prévention.
Plus anticipatrice,
et ça veut dire clairement qu'en fait, le risque inondation, il doit être partie intégrante de l'aménagement du territoire. Et penser au moment où l'aménagement est pensé, en fait. Donc ça veut dire qu'il faut raisonner en termes de zones, de schémas directeurs, par exemple, autour d'un cours d'eau. C'est le cas, enfin voilà, je donnerai éventuellement des exemples tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est tout simplement aussi retenir l'eau sur le territoire. Tout faire pour retenir l'eau sur le territoire.
Ça rompt avec les pratiques anciennes.
Eh bien évidemment, parce qu'en fait, on quitte on change de paradigme, le paradigme du tout tuyau et de l'évacuation de l'eau en fait vers la mer. Donc non, il faut retenir l'eau sur le territoire. Et puis aussi, troisième point, je rajouterai, et tout ça dans une démarche le plus naturaliste possible, c'est-à-dire en pensant le plus possible à la préservation, la restauration des milieux pour faire de la GEMA bénéfique à la PI, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, par exemple, permettre à un cours d'eau de méandrer au lieu de l'enserrer. Voilà.
Oui, c'est-à-dire, bon, l'époque des... On trace, on bétonne, et c'est la rupture avec plusieurs décennies de
cette... On travaille à cette rupture et à la mettre en place. Évidemment, on est très contraint par l'urbanisation, hein, donc on ne peut pas faire des miracles. Enfin, pas pour l'instant.
Peut-être. Alors, on comprend bien cet axe et en quoi il est novateur. En termes d'aménagement, parce qu'il y a des aménagements, ça a été évoqué, ceux qui sont en cours, en voie de s'achever, il y a bien des réalisations qui sont appuyées sur cette décision de principe. Les aménagements qui sont...
Actuellement,
voilà, oui. C'est ça, actuellement.
Ah, bah, d'accord.
Oui.
On a par exemple les travaux qui ont été faits sur la basse vallée de la Mausson. Donc on a refait les digues pour protéger surtout un quartier de Mourem, puisqu'on peut avoir des crues très importantes à cet endroit-là. Et donc déjà, d'une part, les digues ont été reculées par rapport au cours d'eau pour ménager des zones d'expansion de crues. Et puis, à la confluence entre la Mausson et deux autres petits cours d'eau, le Lantissargue et le Rio Coulon, si je ne me trompe pas, je regarde Nicolas Zoubide, on a carrément créé une nouvelle zone humide, donc un nouvel étang, en fait, donc, qui permet, vous le comprenez, donc, l'expansion de crues à nouveau et aussi de retenir l'eau sur le territoire. Et ça répond un petit peu à la question que posait madame tout à l'heure, quid du biseau salé? Ben justement, là, le biseau salé, on le retient un petit peu en ménageant donc une zone d'eau douce.
Voilà. Alors, il y a des effets sur la biodiversité, en plus.
Eh ben, exactement, voilà. Évidemment. Vous voyez, en fait, par cette remarque, vous soulignez que c'est des solutions, je dirais, systémiques, intégrées, qui permettent de répondre à plusieurs enjeux, effectivement.
C'est-à-dire, il y a une approche plus transversale. Alors, ça vaut, je dirais, pour les élus et pour les services. C'est-à-dire, l'organigramme habituel dans lequel chacun s'installait dans son coin, il y a cet effort, j'imagine, à la direction générale des services, par exemple, ou des directeurs, de penser l'aménagement, de penser le futur territoire de la métropole dans ces termes, voilà, plus ouverts, plus transversaux.
Mais par exemple, je vais vous donner un exemple très parlant. Vous savez tous qu'on est dans la construction du PLUI, et donc le service GEMAPI contribue...
Plan local d'urbanisme intercommunal.
Tout à fait. Et donc le service GEMAPI contribue fortement, par exemple, en introduisant un document qui s'appelle le zonage pluvial et qui pose certaines règles. Par exemple, l'obligation pour les nouveaux projets d'infiltrer les 40 premiers millimètres d'eau à la parcelle. Donc ça, ça veut dire, par exemple, ben, faire des noues éventuellement, ce genre de choses. Bien sûr, des bassins de compensation à l'imperméabilisation, ça c'est assez classique. Et une nouvelle règle que j'apprécie particulièrement, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tracassait, surtout en tant qu'élue de Villeneuve, l'interdiction de pomper constamment les eaux d'exor contenues dans les sous-sols, c'est-à-dire dans les parkings en particulier. Ponctuellement, oui, mais pas de façon constante. Donc ça, vous voyez, ben voilà, on a un travail un exemple de travail transversal, une façon de penser cohérente et systémique.
Alors, par parenthèse, le PLU est en phase à la fois de mise au point et de concertation, de mémoire. Donc,
il n'est pas être, encore en concertation.
Ou en tout cas, une phase préalable, en tout cas d'information. Hein. Et il est, normalement, il doit être voté courant 2025 de mémoire.
Oui, je ne sais plus, c'est à peu près ça. Première étape cet été, non, je crois, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je regarde Nicolas aussi.
Pour avoir ces dates en tête, parce que c'est pas...
Vous me posez des questions trop techniques, attention.
Non, non, mais bon, je voudrais le savoir, parce que j'ai pondu la plaquette sur le PLU, mais j'ai oublié la date.
Bien. Et alors, si vous voulez, je peux vous donner un autre exemple d'introduction de règles importantes dans le PLUI, c'est la notion d'espace de bon fonctionnement qui a été d'ailleurs introduite par le SAGE, si je ne me trompe pas. Donc là, on ménage, ça veut dire qu'autour, dans un certain périmètre autour des milieux aquatiques, ben, en fait, globalement, on ne peut plus construire. Donc vous voyez bien à quoi on fait référence si vous pensez à l'actualité et aux catastrophes auxquelles on peut insister, hélas parfois en direct. Donc ne plus construire auprès des milieux aquatiques permet de les préserver, permet aussi de ne pas créer d'enjeux en fait quoi, par rapport aux populations. Voilà.
Très bien, merci. Alors, on raccorde bien sûr même question du côté du Gros-du-Roi et dans la communauté communautaire de Camargue. Comment vous approchez ces questions? On ne va pas bien sûr décrire dans le détail, mais en gros, quelle est la politique générale? Quels sont les grands principes qui vous guident et qui déterminent le mode de gestion et d'aménagement, les aménagements liés à l'eau?
Alors, déjà, on travaille au sein d'un bassin hydrologique. Donc, c'est le bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui a établi son schéma, son SDAGE. Donc, ça, c'est un des échelons. Ouais. Donc, qui donne quand même, évidemment, les axes. Les axes selon lesquels on doit travailler, c'est le fruit d'un gros travail en amont, et ensuite avec des déclinaisons.
Voilà, avec le rôle que joue l'agence de l'eau là, dans la mise en œuvre des plans.
Oui, l'agence de l'eau vient, bien sûr, là je parle, si vous voulez, du bassin, bon, après il y a l'agence de l'eau, bien entendu, et après, en proximité, et ça a été évoqué par ma collègue, il y a le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Nous, on le traite au niveau de la Camargue-Gardoise, syndicat mixte de la Camargue-Gardoise. On vient d'installer la commission locale de l'eau. L'intérêt que j'y vois dans cette proximité, c'est qu'autour de la table, on a les acteurs, tous les acteurs qui sont présents. Et je pense que c'est un point fondamental quand on est face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui vis-à-vis de l'eau. Les enjeux sont multiples vis-à-vis de l'eau. Donc la ressource en eau pour l'agriculture, la ressource en eau pour boire, la ressource en eau et l'évolution de l'eau. On a parlé du biseau salé, la pression du biseau salé, l'impact sur les activités humaines et sur la biodiversité de nos territoires. Les enjeux sont nombreux.
Alors, qu'il y a autour de cette table, donc ?
Là, il y a plusieurs collèges.
Les principales catégories.
Il y a les collèges, il y a les élus, il y a les associations, il y a les organismes consulaires. Donc, qui sont autour de la table et qui travaillent pour établir ce schéma qui est bien sûr piloté. Moi, je co-préside la clé avec l'État et qui, après, doit trouver son application.
Clé commission locale de l'eau.
Qui doit trouver son application à la commission locale de l'eau. Après, on fait face à des situations, je dirais, particulières qui nous mobilisent. Je veux prendre un exemple. La salinité, ça a été dit. Nous, sur ce territoire de la Camargue-Gardoise, on a été soumis donc à la montée de la salinité à la fois dans le canal du Rhône à 7, donc ça c'est par l'eau elle-même, mais aussi par le biseau salé, et ça a porté atteinte à une agriculture, notamment une viticulture, puisque nous avons là un vignoble de 30 000 hectares qui viennent d'obtenir son AOP, ce sont les vins des sables de Camargue, qui, sur une année, a perdu 300 hectares. La vigne est morte.
D'accord. 300 hectares, ça fait quelle proportion du total ?
10%.
10%, 10%. C'est ça, voilà, c'est énorme.
Donc la vigne est morte. Et l'impact sur les milieux naturels. Et là, je veux parler de la prairie, bien sûr, quand le taux de salinité augmente, et je veux parler des fameuses roselières. On a des roselières immenses sur les étangs du Cré, du Scamandre et du Charnier, qui sont parmi les plus importants habitats des hérons, avec 5 espèces de hérons. Et là, l'incidence, elle est majeure. On a perdu 50% de la roselière, et ça veut dire que l'habitat des hérons, les hérons transforment leur habitat. Au lieu de nicher dans le roseau, ils nichent maintenant dans les arbres, et on va voir cette population de hérons chuter considérablement. On parle de biodiversité, d'attractivité d'un territoire. Donc il y a vraiment une modification aussi des espaces lagunaires qui deviennent beaucoup plus salés, où on voit évoluer la flore et la faune. Donc les choses changent. Donc on est mobilisé sur l'ensemble, bien sûr, de ces questions, à travers notamment ces structures. Et au syndicat mixte, les élus du territoire, puisque vous parliez des élus, se sont tournés vers le syndicat mixte en disant, puisqu'on est en gestion avec la clé du SAGE, il faut que le syndicat mixte s'engage. Et donc là, on a mis en place un comité technique, un comité de suivi. On travaille main dans la main avec l'État. On met autour de la table aussi l'ensemble des acteurs. Et on travaille. On a travaillé sur des réponses à apporter dans l'immédiat, court terme, moyen terme et long terme. On va présenter un plan d'action qui se veut bien sûr certes en conformité avec ce que dit le SDAGE, le SAGE, mais aussi il y a dans ce travail dit de l'urgence quelquefois des solutions immédiates qui arrivent. Je veux vous en citer une. On a, avec Voie Navigable de France, accepté l'idée de faire rentrer un peu plus d'eau du Rhône dans le canal du Rhône à 7. En ouvrant l'écluse de Saint-Gilles pour faire passer de l'eau douce, et on commence à voir les effets positifs puisqu'on a installé des piézomètres sur le territoire, on voit le sel qui baisse, on voit des zones qui retrouvent un certain équilibre, mais ça c'est du court terme. Il faut après développer beaucoup plus sur le moyen terme et le long terme. Tout en sachant, et là je reprends ma casquette d'Anel, c'est qu'on est confronté à un choc majeur, celui du dérèglement climatique. Voilà. Et moi, si vous voulez, je vous donne un témoignage, celui d'un maire du littoral qui a été contrôlé par la Chambre régionale des comptes, comme 40 maires du littoral de Méditerranée, qui ont été contrôlés. La Cour des comptes donc a demandé aux chambres régionales de venir rencontrer les maires. Où en êtes-vous, monsieur le maire, de cette question du réchauffement climatique, de la montée du niveau de la mer? Là, je ne vous parle plus de la ressource en eau, je vous parle d'une autre question.
Qui a fait débat.
Alors moi, je suis convaincu d'être engagé sur cette question avec les collègues, on en parle souvent, au niveau de l'ANEL, puisqu'on est au Conseil national du trait de côte, on y travaille activement. Eh bien, la magistrate avec laquelle j'ai eu 7 heures d'entretien a conclu de la façon suivante. Je vous partage ça parce que je crois qu'on peut parler à partir de ça. Monsieur le maire, vous n'êtes pas assez mobilisé sur la relocalisation de votre ville. Donc aujourd'hui, deuxièmement, monsieur le maire, vous envisagez des constructions, votre PPRI est insuffisant. Monsieur le maire, vous référez au SCOT.
Plan de protection du risque d'inondation.
C'est insuffisant. Monsieur le maire, vous avez lancé une étude, selon la loi climat et résilience, avec vos collègues de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de Arles, des Sainte-Marie-de-la-Mer. Vous avez mis votre curseur à un niveau d'une hypothèse du montée du... C'est insuffisant. Donc vous n'êtes pas assez donc sur la relocalisation. Donc ça, je raconte ça parce que ça nous met face à cet enjeu majeur de la gestion de l'eau que vous avez décrit comme étant une question mondiale tout à l'heure, puisqu'on voit bien qu'on est tous mobilisés sur cette question. Bien sûr, on pense à l'eau qu'on a au robinet, de l'économiser, etc. Mais c'est une question beaucoup plus globale qui nous met dans un rendez-vous avec l'histoire, qui nous met avec un rendez-vous avec l'histoire, avec des élus, et je veux parler de moi, qui ne sommes pas dans le déni des situations et des difficultés que nous avons, mais qui sommes quand même confrontés à quelques... Bien sûr, c'est à nous de, qui sommes là en mandat de nous atteler à cela, et pas seuls, hein, bien sûr, mais qui sommes confrontés à un temps de l'histoire qui n'est pas très confortable, où je pourrais, moi, envisager de dire « Non, je lance des programmes immobiliers sur le Gros du Roi avec des premiers niveaux d'habitation à une norme NGF à 2,70 pour garder mes jeunes et remplir mes écoles. »
Bien sûr.
Au lieu de ça, on me dit « Mais peut-être il vous faut vous préparer à fermer le rideau de cette ville et lui expliquer qu'elle va se déplacer. » Donc je vous témoigne ça pour alimenter la réflexion générale. Voilà,
je vous remercie parce que ça met le sujet en perspective, bien entendu. Hein. Ça montre l'acuité du sujet, sa complexité. Alors, pour finir, Monsieur Crost, en préparant cet entretien, vous avez parlé d'un regroupement de quatre intercommunalités, Toaglo, Montpellier-Méditerranée, Métropole, Pays de l'Or et Terre de Camargue, l'entente du golfe de Camargue, oui. Puisqu'on parle... Comment pilote ces politiques? Quel est l'objet de cette entente du Golfe?
Alors je crois que ça, c'est la conscience évidente, bien sûr, qu'on ne travaille pas tout seul dans son coin et qu'il est nécessaire, justement, de se rassembler. Donc ça, c'est un exemple. On y a travaillé, donc, à Madame Desgrés, là-dessus. Et on a porté sur les fonds baptismaux cette entente du Golfe des Gomortes avec Toaglo, Montpellier Métropole, avec l'Aglo de Pays de l'Or et Terre de Camargue, parce qu'on est conscient, bien sûr, qu'il faut travailler déjà à cette échelle. Donc ça va de soi. Hein, ça va de soi, c'était peut-être pas une évidence. Bon, on s'est exercé déjà à travailler ensemble, hein, avec les EPCI. Mais face à des enjeux comme ça, vous avez vu la commande que nous avons fait, nous, sur... notamment la cartographie. On l'a faite à travers un grand syndicat, le CIMADREM, avec lequel on a l'habitude de travailler ensemble pour la protection des inondations du Rhône. Et là, on a commandé cette étude avec les collègues des Bouches-du-Rhône. Alors d'un côté, je travaille avec les collègues des Bouches-du-Rhône et puis avec ceux d'Occitanie, puisque je suis juste au milieu.
C'est une chance, ça. De oui, c'est une chance. Bien, je me tourne maintenant, Madame Gramagliard. Bien sûr, vous avez, sur ce dont nous parlons, un regard particulier. Alors, peut-être, dites-nous en quoi consiste, en tout cas, bon, vous faites d'autres choses, bien entendu, votre travail sur l'eau et sur les problématiques liées à la gestion de l'eau dans nos territoires. Quelle est votre approche, votre intervention?
Alors, donc bonjour. Moi, je suis sociologue à l'INRAE, UMRGO, comme vous l'avez précisé. Je travaille, on va dire... en quelques mots, sur la réparation du grand cycle de l'eau dans la ville et au-delà. Et donc ça passe par des travaux d'accompagnement à la désimperméabilisation et aussi d'accompagnement et d'animation du débat public sur les questions de restauration des rivières en ville, dont bah voilà, on a évoqué quelques enjeux, hein, le changement climatique, dans les villes, nous montre bien que cette eau dont on a voulu se débarrasser pendant longtemps, on en a besoin, on en a besoin pour nos sols, on en a besoin pour créer des îlots de fraîcheur. Et donc ça suppose de refaire ville autrement avec l'eau, en la conservant. Et ça suppose aussi un changement culturel, parce qu'on le voit, alors on a travaillé avec différentes collectivités territoriales, mais on voit bien que dans les services techniques, on peut avoir aussi, même s'il y a des efforts de transversalité, il y a quand même un fonctionnement en silo bien souvent qui empêche de traiter ces problèmes complexes. Donc il y a peut-être des métiers d'interface aussi à inventer. Et puis au niveau participatif du terrain, si on veut que ces politiques qui remettent complètement parfois en cause la manière dont on a conçu la ville, eh bien, il faut associer le public, parce qu'on ne peut pas dire aux gens tout simplement on va enlever le bitume, on va remettre des méandres là et là, si on ne leur explique pas. Et si on ne les associe pas en amont aux choix techniques. Donc mon travail, il est là-dessus. Il est à la fois sur de l'observation et puis de l'accompagnement avec la conception d'outils et de méthodes participatives originales qu'on teste sur différents terrains.
Donc voilà, en vraie grandeur, quoi. Je veux dire, ces expérimentations que vous avez conduites sur des dispositifs de participation, de consultation, bon, ils sont sur un territoire donné par rapport à une problématique donnée, quoi. C'est pas... Oui. C'est pas théorique de votre bureau, quoi.
Non, pas du tout. Bon, là, par exemple, en ce moment, on mène des ateliers participatifs avec, dans la métropole de Lyon, avec la ville de Vaux-en-Velin, autour d'un projet de restauration d'une rivière urbaine qui a été très abîmée, la Rize. Elle est busée sur plusieurs centaines de mètres. C'est devenu un canal avec 90 cm de vase. Et c'est un endroit que les riverains adorent, où ils vont se promener. Et en même temps, voilà, ils déplorent son état. Cette rivière, il y a eu des projets de restauration dans le passé qui ont été amorcés, ébauchés. Il y a eu des réunions publiques et puis c'est pas allé plus loin. Donc les gens sont extrêmement déçus. On arrive dans une situation où il y a beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de méfiance de la part du public qui se dit on nous a promis des choses, c'est jamais venu, qu'est-ce que vous venez encore nous raconter ? Et pourtant, voilà, avec un dispositif particulier où on fait des ateliers sur la géomorphologie, sur l'écologie, où on emmène les gens sur le terrain, on fait des balades avec eux aussi, on va ramasser des murs au bord de la rivière avec eux pour partager vraiment les savoirs, hybrider les formes de connaissances sur cette rivière, eh bien on arrive à, avec des maquettes sensibles, c'est une méthode qu'on a développée, les faire concrétiser hein, sur des cartes, des propositions. Et donc sur la Risse, par exemple, son lit, il est tellement abîmé, canalisé et aussi alimenté par des eaux de ruissellement chargées en polluants, qu'on va sans doute déplacer son lit, lui refaire un autre lit. Alors l'image, elle peut surprendre, mais c'est la solution qui a été trouvée. Mais ça, c'est pas une solution qu'on aurait pu parachuter comme ça, avec les meilleures intentions, comme un projet technique tout ficelé. Les gens, il faut leur expliquer. Je donne un autre exemple. Enfin, c'est un autre exemple cité de la, qui est plutôt tiré du travail qu'on mène sur la désimperméabilisation. Cette fois-ci, c'est un travail qui a été mené sur la métropole de Montpellier. Et quand on interroge les usagers à Malbosque d'un parc canin qui fait aussi office de bassin de rétention, les gens ne savent pas que c'est un bassin de rétention. Ils vous disent, mais il ne marche pas ce parc canin parce que quand il pleut, il est plein d'eau. Donc là, il y a un déficit de d'éducation, de communication qui pourrait être comblé par un vrai travail participatif de co-construction où les gens se saisissent des enjeux, font valoir aussi leur point de vue et font des propositions qui sont tout à fait originales. Et notre travail, c'est de dire la controverse, c'est pas quelque chose à éviter parce que ça attire que des problèmes. La controverse, c'est une bonne opportunité pour explorer ensemble, problématiser, imaginer aussi des questions ou des risques que les experts tout seuls ne sont pas en capacité de comprendre. Et donc il faut, dans ces situations d'incertitude très profonde, que les décideurs se disent pas, on en a parlé tout à l'heure, c'est à nous de trancher. Ils ont un rôle important de portage politique, mais ils ne peuvent pas trancher tout seuls. Il faut vraiment qu'on se saisisse de cette situation de crise pour repenser aussi notre fonctionnement démocratique.
Alors, bien sûr, je vais me tourner vers les élus. Ce à quoi vous incitez les élus, c'est que les habitants s'approprient ces questions, en dépassant la complexité qu'elles ont, et peut-être, c'est le mot qui me venait en tête, d'exercer une citoyenneté de l'eau. Est-ce que c'est ça, Madame Négret ?
Oui, bien sûr, vous avez raison. Il s'agit de ça, et d'ailleurs, bonne nouvelle. Donc le service GEMAPI, donc la métropole, a conventionné avec la fédération d'associations qui s'appelle BALES et qui contient 6 associations riveraines du Lez. Et justement pour travailler avec ces citoyens, et l'objectif c'est vraiment de dépasser les controverses d'ailleurs, pour discuter ensemble et porter... Ils amènent un regard, cette association, elle amène un regard qui est très intéressant pour notre intercommunalité, parce que l'idée, c'est vraiment pas de venir critiquer, mais c'est de venir discuter et surtout de porter aussi à la connaissance des citoyens les actions de la métropole, les actions du service public, de la GEMAPI, parce que très clairement, moi, je me rends compte en étant élue, et d'abord en mairie, puisque sinon je ne serais pas là, qu'en fait les collectivités, les intercommunalités, ce n'est pas dans leur métier en fait de communiquer sur leurs actions, et ça c'est vraiment un problème. Et c'est un problème parce que en fait voilà, l'exemple que vous avez cité, il est complètement parlant. Personne n'a dit aux gens en fait à quoi servait cet endroit-là. On en a fait un parc, c'est l'occasion, mais il a aussi un rôle fonctionnel, en fait. Et ça, si on ne l'explique pas, les gens ne peuvent pas le deviner. Mais en fait, c'est vraiment une question, je pense, culturelle. Il faut qu'on apprenne à le faire. Et bon, moi, voilà, je sens bien que ça vient, qu'il y a une volonté. Il faut que les collectivités, les intercommunalités, elles se structurent pour pouvoir le faire, qu'elles s'organisent.
Les années qui viennent, les élections européennes nous aideront peut-être à trouver ce juste équilibre entre global et local pour préserver ou redonner vie aux biens communs, trouver une juste place au partage des responsabilités entre l'État et les territoires.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.